semaine d'actualité. Stéphane Lagarde.
Bonjour, samedi 28 février, 7 jours d'actualité dans le monde, c'est maintenant sur RFI avec les reportages de nos correspondants et nos envoyés spéciaux. Merci de votre fidélité. Une émission à podcaster également sur le site de la radio, vous connaissez ça par cœur, www.rfi.fr. Et dans un instant, nous partons pour l'Ukraine. Dans la deuxième partie de l'émission, rendez-vous évidemment avec l'info africaine. Mais tout de suite, on ne le présente plus. Notre partenaire Yann Mince est avec nous dans ce studio, le rédacteur en chef du magazine Alternative International, dont le dernier numéro vient de sortir. Je l'ai avec moi là, hein, numéro 66, tout chaud, tout beau. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Alternative International, dont la couverture intéressera forcément nos confrères David Thompson, Nicolas Falaise ou encore Guilhem Delteil et bien d'autres à RFI, avec ce titre « La planète djihadiste ». Alors c'est un fait acquis aujourd'hui, Yann Mince, l'islam radical est partout, au moins dans les esprits.
Dans les esprits certainement, depuis les attentats de Paris, c'est évident. Il a frappé sur le sol de l'Europe, il a frappé aussi au Danemark. Alors on oublie un peu vite en France qu'il avait frappé avant à Madrid, qu'il avait frappé à Londres, c'est pas non plus si vieux. Évidemment, il avait frappé avec le 11 septembre, mais le fait qu'il ait frappé en France fait qu'il est effectivement beaucoup plus présent dans les esprits. Je crois que c'est son but. Les djihadistes veulent nous faire peur et ils sont ravis quand nous avons peur parce que ça leur donne l'impression qu'ils sont importants et puissants.
Un dossier sous forme de questions, hein, la planète djihadiste, avec tout un tas de questions, on va les décliner pendant l'émission. D'abord, pourquoi devient-on djihadiste ?
Oui, il y a, à mon sens, les raisons pour lesquelles on devient djihadiste sont assez différentes dans des pays comme ceux du Moyen-Orient ou d'Afrique ou en Europe. Je pense qu'effectivement, le Moyen-Orient, en Afrique, ça correspond, dans certains cas, à la dérive de militants qui pensent que c'est la seule solution face à des pouvoirs autoritaires, à des dictatures, que de recourir à l'ultra-violence. Il me semble que dans les pays européens, on est sur tout un tas d'autres motivations qui sont à la fois sociologiques et psychologiques, et j'insiste sur ce plan-là. Je crois qu'il y a une dimension psychologique forte. Effectivement, les discriminations, l'exclusion jouent créer un terreau favorable pour ce genre de dérive, mais ça ne devient une dérive djihadiste que quand ça rencontre une fragilité psychologique chez un nombre de gens qui ont eu des parcours personnels, familiaux, un peu heurtés, souvent de la délinquance, souvent le passage par la prison, pas uniquement, mais ça joue beaucoup, et effectivement ça donne des gens qui partent, qui s'embarquent, comme on l'a vu avec ces trois jeunes filles britanniques ces derniers jours, qui partent alors qu'elles sont dans un environnement a priori plutôt protégé, mais là effectivement il y a une dérive psychologique. Une dérive en plus de l'ordre de la micro-secte, puisqu'on est sur trois, quatre personnes qui partent ensemble, qui se radicalisent ensemble, qui se montent la tête ensemble, je dirais, et ça peut donner ce genre de départ qui évidemment laisse les familles complètement surprises et éplorées.
Alors ça arrive aussi en France, on le verra tout à l'heure. Alors pour commencer ce voyage dans l'actualité, partons sans tarder pour l'Ukraine, si vous voulez bien, où l'armée ukrainienne et les rebelles doivent procéder au retrait des armes lourdes de la ligne de front. Ça fait partie de l'accord Minsk 2. Un processus suivi attentivement à Mariupol, c'est la seule grande ville de la région encore aux mains de Kiev, une ville convoitée par les séparatistes. Sur place jeudi, nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Le grand port industriel de quelques 500 000 habitants, dont les principaux employeurs sont les deux grandes usines sidérurgiques de Rinat Akhmetov, l'oligarque qui a fait sa fortune à Donetsk, pourrait devenir le prochain objectif des séparatistes. Ceci d'ailleurs ne cache pas qu'ils considèrent que Mariupol doit leur revenir, mais ne prévoient pas d'attaque dans l'immédiat et affirment qu'ils vont tenter de l'obtenir par la négociation. L'heure semble effectivement à l'accalmie. Les deux parties ont entamé le retrait des canons de 100 mm de la ligne de démarcation. Malgré cela, les autorités de Kiev ont averti qu'elles étaient prêtes à revoir le calendrier du retrait en cas de tentative d'assaut de la part des rebelles pro-russes sur Mariupol. Le front n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de là et la situation reste assez instable. Hier, il y a eu des échanges de tirs à l'arme automatique à 30 kilomètres au nord-est de la ville. L'armée ukrainienne dénonce notamment une concentration de troupes séparatistes près de Mariupol qui a été survolée par 7 drones en 24 heures, selon Andrei Lysenko, le porte-parole militaire. Au sein de la population, le retrait provoque des réactions mitigées. Certains redoutent que la ville ne se retrouve sans défense en cas de nouvelle attaque. D'autres estiment carrément qu'elle pourrait faire l'objet de marchandages entre les séparatistes et Kiev.
Situation tendue, on l'entend à Mariupol. Vous parlez de l'Ukraine dans le numéro de mars d'Alternative Internationale, Yann Mince, avec ce titre « Ukraine, le pari impossible ».
Oui, c'est un article de notre confrère Marc Semo sur effectivement les conséquences et la signification de l'accord de Minsk 2. Et on voit bien que l'accord de Minsk 2, ça consistait à d'abord à prendre acte sur le terrain de l'avancée des séparatistes, puisque la ligne de front a été quand même beaucoup déplacée par rapport à Minsk 1. Et ensuite, ça consiste aussi à prévoir que la surveillance de la frontière entre l'Ukraine et la Russie sera soumise au préalable d'une réforme de la constitution ukrainienne. Alors ça a l'air d'un peu compliqué, un peu institutionnel, mais c'est très important. Ça veut dire que les séparatistes et Moscou, globalement, peuvent empêcher, en empêchant l'adoption de cette réforme constitutionnelle, peuvent empêcher une surveillance de la frontière efficace, de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ça veut dire donc que, globalement, les séparatistes et derrière eux, Poutine, ont une marge de manœuvre totale dans le fait de recommencer ou pas des offensives. Alors, ils ont pris, juste après Minsk 2, ils ont pris la ville de Debaltseve, qui était très convoitée par les séparatistes, parce que c'est un nœud entre Donetsk et Lugansk, un nœud ferroviaire, un nœud routier important. Maintenant, la question que posait Anastasia Bekio, effectivement, c'est de savoir s'ils veulent prendre Mariupol. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent le prendre tout de suite, parce qu'il faut quand même donner... Quand même, Poutine s'est beaucoup engagé. Voilà.
Sauf le chaud et le froid, ils ont annoncé le retrait des
armes
lourdes.
Poutine s'est engagé, etc. Il y a eu ces négociations importantes, c'est très long avant d'aboutir à l'accord. Il faut quand même que ça ressemble un peu à un minimum d'application des accords. D'ailleurs, si on se souvient, après Minsk 1, ça n'a pas dérapé tout de suite. Il a fallu un certain temps avant que l'accord de Minsk 1 s'effondre. On peut craindre, effectivement, que les séparatistes et derrière Poutine laissent passer un peu de temps avant de partir à l'assaut de Mariupol, qui est, effectivement, quelque chose qui permettrait un territoire, permettrait de faire la jonction avec la Crimée qui a été annexée par la Russie. Et les territoires séparatistes.
Et la guerre toujours avec la première sortie mercredi des Rafales du Charles de Gaulle. Le porte-avions français est pleinement engagé dans la guerre contre l'organisation État islamique. La cible, un camp d'entraînement militaire djihadiste en Irak. Olivier Four.
Ce mercredi, dans le golfe arabo-persique, quatre Rafales sont catapultées du Charles de Gaulle. Cap vers l'ouest, la cible est située à environ 1000 km des côtes irakiennes, un camp d'entraînement à Al-Qaïm, tout près de la frontière avec la Syrie. 6 bombes de précision sont larguées, elles visent toutes la même cible, affirme-t-on à bord du porte-avions, sans préciser quels ont été les résultats de cette attaque. Comme à chaque fois, aucun bilan humain n'a été fourni par l'armée française. Mercredi soir, l'état-major n'était d'ailleurs pas en mesure de confirmer si des éléments de l'EI étaient bien présents dans le camp au moment du raid français. Il s'agissait en fait d'une frappe dite planifiée, autrement dit l'objectif était facilement identifiable et avait été repéré longtemps à l'avance. En clair, un raid assez classique, réalisé en profondeur dans le territoire irakien. Il s'agissait de la 47e mission de bombardement menée par l'armée française depuis le déclenchement des frappes en Irak le 19 septembre dernier.
Suite d'une semaine d'actualité, l'enlèvement d'une ressortissante française et son accompagnatrice, c'était mardi, dans un Yémen en proie à la rébellion des milices houthistes. Sami Boukhelifa.
Le Yémen est sans président et sans gouvernement depuis plusieurs semaines. Sanaa, la capitale où a été enlevée la jeune ressortissante française, est aux mains des houthistes. Cette puissante milice chiite contrôle également une bonne partie du pays. Fin janvier, les houthistes ont lancé une vaste offensive contre le palais présidentiel et le siège du gouvernement. Depuis, le président Abdrabou Mansour Hadi a été contraint de démissionner. Il a trouvé refuge dans le sud, à Aden, et c'est à partir de là qu'il compte lancer son offensive pour reprendre le pouvoir. C'est également au milieu de ce chaos que prospère depuis des années ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. ACPA, les houthistes, deux groupes armés au Yémen et deux pistes sérieuses. Même si leurs motivations sont différentes, les deux organisations pourraient être à l'origine de l'enlèvement de la jeune ressortissante française. Côté houthiste, les raisons d'un éventuel rapt pourraient être politiques ou crapuleuses. Al-Qaïda, quant à elle, a fait des ressortissants occidentaux une cible prioritaire.
Autre enlèvement, cette fois dans le nord-est de la Syrie, où une douzaine de villages chrétiens ont été pris d'assaut par l'organisation État islamique. Des centaines d'otages sont aux mains des djihadistes. À Istanbul, jeudi, notre correspondant Jérôme Bastion.
Les combats se poursuivaient toujours dans la soirée de jeudi le long de la rivière Khabour où s'égrènent les villages assyriens assiégés depuis lundi matin par les combattants islamistes. Selon les dernières informations recueillies sur place par téléphone, il y avait jusqu'à 350 personnes retenues en otage dans ces villages et jusqu'à hier on ignorait s'il y avait eu des victimes. En fait, il s'avère que les djihadistes avaient emmené les femmes et les enfants dans la montagne d'Abdelaziz, toute proche, où ils ont établi une sorte de quartier général, laissant dans les villages les plus âgés et les hommes, sans doute pour servir de bouclier humain face aux forces kurdes, syriaques et tribales qui préparaient une contre-attaque. Hormis les 10 combattants morts les armes à la main depuis lundi, il y aurait eu pas moins de 110 exécutions parmi ces villageois. L'organisation de l'État islamique tient en fait la rive occidentale ou droite de la rivière, alors que la rive orientale ou gauche reste défendue par les forces locales. En fin d'après-midi, des sources à Hasaké ont rapporté avoir vu des bombardements de la coalition frapper des positions de Daesh, sans que l'on sache encore avec quel résultat. Un millier de familles, soit quelques 5000 victimes, ont pu fuir les zones de combat jusqu'à présent, sans trop savoir où aller, tant la région est instable de toutes parts.
7 jours dans le monde.
Et une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, le rédacteur en chef d'Alternative Internationale, dont le nouveau numéro vient de sortir. Une semaine marquée par l'enlèvement de cette ressortissante française dans un Yémen très en proie à la rébellion.
En proie à une vraie chienlit, comme aurait dit le général de Gaulle dans le temps, parce que effectivement l'avancée de ces milices houthistes, alors qui date pas ces dernières semaines, qui date de l'été dernier, mais le fait surtout qu'elles aient pris vraiment le contrôle de la capitale, que le président a dit soit parti vers le sud, ça donne une situation encore un peu plus chaotique, avec effectivement cette rébellion qui est d'origine chiite, mais surtout qui est nordiste, avec au sud des tribus sunnites qui aujourd'hui semble-t-il sont en train de s'allier à Al-Qaïda, parce que il s'agit de se défendre contre l'avancée des houthistes. Et puis, ces troisième acteurs qui sont les sudistes, l'ancien Yémen du Sud. Et un acteur discret dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'ancien président Salé, qui a été chassé du pouvoir après le printemps yéménite de 2011. Et le président Salé, visiblement, qui avait pourtant fait la guerre aux houthistes dans le temps, aujourd'hui serait en train de s'en servir pour essayer de reprendre le pouvoir. Donc, c'est une configuration extrêmement compliquée, avec effectivement, comme le disait Samir Bourlifa tout à l'heure, deux acteurs armés importants, les houthistes et Al-Qaïda au Maghreb islamique, et c'est inquiétant qu'on n'ait pas de revendication de l'enlèvement de notre jeune compatriote. On peut craindre effectivement toujours dans ce genre de situation que l'enlèvement soit au départ simplement crapuleux et qu'ensuite l'otage soit revendu. Ça se voit souvent malheureusement revendu à un groupe politique ensuite.
La planète djihadiste, c'est donc le titre de la couverture d'Alternative Internationale qui sort donc en mars. Les premières victimes des islamistes, quand on lit ce dossier, un gros dossier consacré à cette planète djihadiste, les premières victimes ce sont les populations locales, les musulmans bien sûr, mais aussi les chrétiens, on l'a vu là dans ce sujet de Jérôme Bastion.
Bien sûr, alors effectivement il y a différentes type. Pour les djihadistes, il y a différents types de victimes. Il y a une hiérarchisation. Pour notamment les gens de l'État islamique, les chiites, c'est vraiment les hérétiques, c'est l'ennemi. Alors là-dedans, il y a les chiites, il y a les alaouites syriens qui sont de la famille des chiites. Il y a aussi toutes les minorités, les yézidis, effectivement les chrétiens syriens, comme ces malheureuses personnes qui ont été enlevées. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, dans les victimes des djihadistes, des musulmans sunnites. Donc des musulmans sunnites comme les djihadistes. Mais qui sont, dans certains cas, considérés comme des apostats, donc des gens qui ont trahi la religion parce qu'ils collaborent avec le pouvoir, etc., etc. Ou dans certains cas, des dommages collatéraux, parce qu'ils sont censés être utilisés comme bouclier humain par l'ennemi. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire d'apostats et de bouclier humain, ça donne des débats et des dissensions au sein des djihadistes eux-mêmes. Entre les groupes djihadistes eux-mêmes, et notamment au Nigeria en ce moment, il y a des dissensions sur le fait de savoir si des djihadistes peuvent tuer délibérément des musulmans ou pas. Et là, il y a des clivages. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que les djihadistes sont une espèce de masse unie idéologiquement solide et solidaire. Et en fait, non, il y a des débats entre eux, il y a des débats tactiques, des débats stratégiques, des divisions. Et tout ça, ça traverse les groupes djihadistes. Et c'est important de le savoir, mais c'est surtout important de rappeler qu'effectivement, les premières victimes des groupes djihadistes, ce sont des musulmans, même si ici, en Europe, on est frappé évidemment par le fait qu'il y ait des attentats qui se passent sur notre sol.
Autre image forte de la semaine, c'est aussi le Charles de Gaulle avec ses frappes contre l'Irak, contre les djihadistes en Irak. On se souvient, la France avait dit non à un engagement aux côtés de la coalition américaine lors de la deuxième guerre du Golfe, mais la guerre a changé.
Oui, alors évidemment, c'était en 2003, les conditions étaient complètement différentes. Il s'agissait d'attaquer un pays qui n'était pas un pays en guerre. À l'époque, c'était une dictature épouvantable, celle de Saddam Hussein, mais c'était pas un pays en guerre. La France s'était prononcée contre. Là, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit d'une coalition qui combat des djihadistes qui ont pris du territoire, une partie du territoire irakien, une partie du territoire syrien. Il faut quand même rappeler un point important, c'est qu'il y a une différence de doctrine entre les États-Unis et la France. Les États-Unis bombardent aussi des cibles en Syrie. La France refuse de bombarder en Syrie, considérant que ce serait une aide apportée au régime de Bachar Al-Assad. Par ailleurs, le Charles de Gaulle vient d'arriver sur zone, comme disent les militaires, mais cela dit, il y a depuis des mois déjà des frappes qui se font à partir des bases françaises dans le Golfe et dans les Émirats. Et donc les avions français sont là depuis un moment, mais là il y a de nouveaux avions français. Toute la question c'est de savoir ce qu'on peut faire avec des bombardements contre des djihadistes. Je pense qu'on peut probablement contenir l'avancée des djihadistes, on peut peut-être éviter qu'ils prennent de nouveaux territoires. En revanche, c'est plus compliqué, les pilotes je pense le savent, d'aller bombarder dans leur territoire, parce qu'effectivement, ils ont su disperser leur équipement, ils se sont immergés dans la population, et donc il y a des risques de comme on dit chez les militaires, de dommages collatéraux.
On y revient dans la seconde partie de l'émission.
Une semaine d'actualité.
En luttant contre le réchauffement climatique, nous faisons aussi en sorte d'apaiser et de donner une perspective au monde.
Le président français Yann Mince, vous l'avez entendu, qui fait campagne contre le réchauffement climatique, des propos prononcés mercredi lors de la visite de François Hollande aux Philippines, première visite d'État d'un président français dans le pays depuis 1947, et surtout un premier déplacement du chef de l'État entièrement dédié au climat, manière de marquer le début du lancement de la mobilisation pour la conférence sur le climat, justement, ça sera à Paris en décembre prochain. Des propos recueillis par notre envoyée spéciale à Manille, Anissa El Jabri. Et puis on reste dans la région avec le prix Niwan de la paix, remis à Esther Abimiku Ibanga lundi. Cette religieuse fait campagne contre Boko Haram depuis 6 ans, au nord-est du Nigeria. Elle est très courageuse. 150 000 euros doivent être remis à son association. Frédéric Charles à Tokyo.
Esther Abimiku Ibanga est récompensée par la prestigieuse fondation japonaise Niwano pour sa lutte contre les meurtres de femmes et d'enfants au Nigeria. La fondation japonaise note que cette religieuse courageuse s'est insurgée contre les enlèvements commis par le groupe islamiste Boko Haram. Comment? Eh bien, en regroupant des femmes de diverses religions et ethnies au sein de son mouvement Women Without Walls ou Femmes Sans Murs. Mouvement qui donne une voix aux femmes victimes de la terreur pratiquée par Boko Haram et la répression exercée par les forces nigérianes. Selon la fondation Niwano, Esther Abimiku Ibanga a beaucoup œuvré pour encourager la réconciliation entre groupes de confessions et tribus opposées. Par son dévouement, elle a influencé des milliers de vies de façon positive. La fondation Niwano a été créée à Tokyo par une association bouddhiste. Son prix est attribué chaque année à une personne ou un groupe travaillant à la coopération entre différentes cultures et religions.
Suite d'une semaine d'actualité avec du grand spectacle maintenant, 500 techniciens, des dizaines d'acteurs, rien que ça, 200 chevaux, 1000 moutons et 25 loups. Vous l'avez deviné, on parle du Dernier Loup de Jean-Jacques Hano, un film sorti mercredi sur les écrans français, un film tourné entièrement en Chine dans les steppes de Mongolie intérieure. C'est très beau, la Mongolie intérieure, nous explique notre camarade du service culture, Sébastien Gédor.
Le Dernier Loup, c'est d'abord un best-seller paru sous le titre Le Totem du Loup il y a 10 ans en Chine. L'ouvrage le plus lu après Le Petit Livre Rouge de Mao. L'action se situe justement pendant la Révolution culturelle. Un étudiant est envoyé chez des nomades en Mongolie intérieure. Il va tenter d'élever un loup alors qu'un responsable du parti, au contraire, fait tout pour détruire l'écosystème de la région. Banni après 7 ans au Tibet, Jean-Jacques Hano a cette fois-ci été approché par la China Film Corporation, entreprise d'État, qui lui a donné carte blanche, le considérant comme le cinéaste spécialiste des animaux sauvages. Mais les loups sont des acteurs plus exigeants que les ours ou les tigres. Leur dressage, selon Jean-Jacques Hano, commence
au biberon, parce qu'autrement ils ne font jamais confiance à l'homme, donc à sa présence, et ne vont jamais se sentir libres face aux caméras. Et là, effectivement, je ne peux pas dire au loup, fais-moi une expression d'inquiétude. Je suis obligé de mettre le loup dans une situation où un objet qui va surgir dans son champ de vision va l'inquiéter.
Tourné dans des steppes reculées, dans le blizzard ou sur des lacs gelés, Le Dernier Loup a coûté plus de 35 millions d'euros, ce qui en fait un film à très gros budget, même à l'échelle d'un cinéma chinois en pleine expansion.
Le Dernier Loup, film de Jean-Jacques Hano, entièrement tourné en Chine, sorti mercredi sur les écrans français. Yann Mince, on vous retrouve juste après le flash. On reparlera du dernier numéro d'Alternatives Internationales, votre revue. Chers auditeurs, ne bougez pas. Nous sommes de retour dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant sur les gros titres de cette semaine avec la rédaction de RFI.
Une semaine d'actualité. Stéphane Lagarde.
avec notre partenaire, il est avec nous en studio, Yann Mince, le rédacteur d'Alternative Internationale, dont le nouveau numéro de mars est consacré à la planète djihadiste. Mais tout de suite, la France, où les Parisiens avaient les yeux levés au ciel ces derniers jours, de mystérieux drones ont survolé plusieurs fois la capitale française, dont mercredi. Guilhem Delteil.
Comme la veille, la place de la Concorde a encore été survolée, un endroit stratégique car à quelques mètres seulement de l'ambassade américaine en France. D'autres lieux symboliques ont aussi été survolés pour la deuxième fois en deux jours, les quais de Seine avec l'hôtel des Invalides et la tour Eiffel. Et puis d'autres lieux plus anodins, la porte de Saint-Cloud à l'ouest et la porte de Clignancourt dans le nord, deux sites qui, eux, n'étaient pas sur les itinéraires de la nuit précédente. Comme hier, la gendarmerie, dotée d'une section de recherche des transports aériens, a été saisie de l'enquête par le parquet de Paris. Une enquête pour vol par aéronef en zone interdite, car le survol de Paris n'est pas autorisé. Mais pour l'instant, les personnes aux commandes de ces drones n'ont pas pu être identifiées. Leurs motivations ne sont donc pas connues. Simple jeu, provocation de la part de militants ou préparation d'actes malveillants. Toutes les hypothèses sont envisagées. Mais les enquêteurs ne se montrent pas particulièrement inquiets. 8 vols de drones au-dessus de Paris ont déjà été recensés. 3 de leurs auteurs interpellés et aucun ne présentait un profil inquiétant aux yeux des autorités.
Le ciel sous surveillance, Yann Mince. Les djihadistes aussi, 6 Français ont été privés lundi de leur passeport et de leur carte d'identité. Ils s'apprêtaient à quitter la France pour la Syrie, une mesure rendue possible par la loi antiterroriste votée au mois de novembre dernier. Raphaël Rennes.
L'interdiction administrative de quitter le territoire n'avait pas encore été appliquée concrètement. C'est désormais chose faite. Faite à l'encontre de 6 Français âgés de 23 à 28 ans, originaires notamment du sud-est de la France, et dont certains se sont déjà rendus en Syrie par le passé. Leur départ était imminent, assure le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui ajoute que ces 6 Français ne sont que les premiers.
Ces 6 interdictions administratives de sortie du territoire qui ont été d'ores et déjà signées, une quarantaine qui sont en préparation, de manière à ce que cette mesure, qui a vocation à monter en puissance au cours des prochaines semaines, soit effective et qu'elle permette de limiter les risques terroristes liés à la volonté d'un certain nombre de nos ressortissants de s'engager sur les théâtres terroristes, notamment en Irak et en Syrie.
La confiscation des documents est prononcée pour une durée de 6 mois, renouvelable pendant 2 ans. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif.
Sept jours en France.
En France, justement, une visite qui fait polémique. C'était mercredi en Syrie. 4 parlementaires français de droite et de gauche ont rencontré Bachar al-Assad, le président syrien, à Damas. Une visite fortement critiquée par le gouvernement français. Daniel Valo.
Premier objectif affiché par les membres de cette délégation parlementaire, renouer le dialogue avec le régime syrien pour mieux lutter contre l'organisation de l'État islamique. Second objectif, trouver une porte de sortie à la guerre civile qui ravage le pays. Jacques Myard, député UMP, joint à Damas par RFI.
Ce gouvernement, même si on ne l'aime pas, même s'il a du sang sur les mains, il existe. Et le top de la diplomatie, c'est de parler aussi avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup.
À Paris, l'initiative des parlementaires français n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme du gouvernement. Dès l'annonce de cette entrevue avec Bachar al-Assad, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, a pris soin de prendre ses distances avec les 4 députés.
C'est une initiative qui n'est en aucun cas une initiative officielle et diplomatique de la France. C'est une initiative personnelle de parlementaires. Je n'irai pas au-delà, mais je tiens à le préciser.
Pour le gouvernement français, pas question de coopérer ni même de discuter avec Bachar al-Assad, une ligne adoptée en 2011 par Nicolas Sarkozy et qui n'a pas bougé d'un iota sous la présidence de François Hollande.
Suite d'une semaine d'actualité avant de vous retrouver, Yann, une couverture rouge pour la sortie du dernier Charlie Hebdo mercredi. Les attaques qui ont décimé la rédaction de cet hebdomadaire sont encore dans toutes les mémoires. Reportage Anthony Michel.
Tout est mouillé.
Devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, dans le nord-est de Paris, des barrières empêchent encore les passants d'approcher l'entrée du journal. À l'angle de cette rue, sur un mur, des affiches « Je suis Charlie » et plusieurs dizaines de bouquets de fleurs et de messages jonchent le sol. En fin d'après-midi, une riveraine d'une 50aine d'années s'approche du tas de fleurs. Elle allume une bougie.
Tous les jours, je passe ici, donc je vais allumer les bougies, je range un peu les fleurs. Voilà. Puis on est plusieurs à tourner comme ça. Je viens parce que... pour l'hommage, tout le temps. J'espère qu'ils vont le laisser longtemps, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passera après.
Pendant qu'elle ramasse des fleurs fanées, les personnes s'avancent. Elles ne veulent pas oublier les 11 morts de Charlie Hebdo et du policier tué quelques mètres plus loin. Qu'il soit de Paris ou d'ailleurs, le passage par ce mémorial est important. C'est le cas d'une secrétaire, la quarantaine, originaire de Lyon. À peine sortie du train, elle voulait se recueillir ici avec un ami.
Beaucoup d'émotions de voir tous ces gens qui pensent à eux, ces fleurs, ces bougies. C'est très émouvant.
Les dessinateurs et journalistes ont quitté ce lieu depuis les attentats pour les locaux du journal Libération où ils travaillent. Mais ils déménageront bientôt et pourraient d'ailleurs s'installer dans un local du 13e arrondissement de la ville.
Voilà la fragile renaissance du coup de crayon de Charlie Hebdo. Vous êtes lecteur de Charlie, Yann Mans ?
Non, j'étais pas un lecteur, mais j'ai décidé de l'acheter régulièrement maintenant parce que je pense que la survie d'un titre comme ça est importante et elle se joue sur la durée. Il y a eu un effet sur le premier numéro, le numéro des survivants. Il y a encore eu un effet, je pense, important de vente sur le deuxième, mais ça va se jouer sur la longueur. C'est-à-dire un journal, ça se vend, un hebdomadaire, ça se vend toutes les semaines. Il faut que ça se vende toutes les semaines pour pouvoir survivre. Donc je pense qu'il faut avoir acheter Charlie Hebdo régulièrement et ceux qui sont abonnés ont plutôt fait un très beau geste de ce point de vue-là.
Et puis je vais faire d'ailleurs un conseil aussi d'acheter bien sûr Alternative Internationale du mois de mars parce que c'est un très bon magazine. Des aspirants djihadistes français privés de passeport et des parlementaires qui vont à Damas. Ça vous inspire quoi ça, Yann Mass?
Les djihadistes privés de passeport, évidemment, c'est une arme à double tranchant parce que ça veut dire que certains vont essayer de sortir sans se faire repérer, qu'on va voir naître des filières de sortie clandestine. Bon, on peut pas empêcher complètement des gens de partir. Si on peut en empêcher certains, c'est déjà bien. Les parlementaires à Damas, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus lourd. Il y a, je pense, chez une partie de la classe politique française, et c'est vrai pas seulement pour Bachar al-Assad, mais c'est vrai aussi pour Poutine, une espèce de fascination pour les hommes forts, puissants. Une espèce de tyran. Alors évidemment, Bachar el-Assad et Poutine ne sont pas comparables. Poutine a été élu, il a une vraie cote de popularité. C'est pas le cas de Bachar el-Assad. Mais il y a quand même une espèce de fascination pour ces hommes forts, avec qui la France, qui est elle-même une nation forte, devrait parler, parce qu'on parle entre gens, entre puissances fortes. Par ailleurs, il y a cette idée qui circule maintenant, que Bachar el-Assad fait partie de la solution au conflit syrien. Alors tout dépend ce qu'on appelle la solution. Stéphane de Mistura, qui est l'envoyé des Nations Unies pour le conflit syrien, a dit cette phrase. Effectivement, il a dit Bachar el-Assad fait partie de la solution. Si c'est la solution que prône de Mistura, qui est de cesser le feu, un cessez-le-feu à Alep et ensuite des cessez-le-feu locaux, peut-être que pour ça, justement pour ça, mais c'est pas une solution de long terme, c'est un palliatif de court terme pour arrêter les combats, peut-être que Bachar el-Assad fait partie de la solution, mais de la solution à long terme du conflit syrien, qui serait une démocratisation de la Syrie, ça il faut pas demander à Bachar el-Assad de faire ça, il l'aurait fait depuis longtemps, s'il avait voulu le faire, il serait parti. Donc je crois pas qu'il fasse partie de la solution, je pense pas qu'il faille que des parlementaires français, même si évidemment ils sont indépendants du pouvoir exécutif, et c'est très bien que des parlementaires aient une action indépendante de l'exécutif en France, y compris en matière de politique étrangère, ça fait partie de leur indépendance. Mais je crois pas qu'il faut que des parlementaires français aillent parler à Bachar el-Assad. Que les Nations Unies le fassent, oui, elles sont dans leur rôle, c'est une puissance neutre, mais apporter la caution du Parlement français ou de parlementaires français, on l'a bien vu, les médias syriens officiels l'ont immédiatement récupéré en disant que la France était en train de changer de position.
Les relations diplomatiques entre Paris et Damas sont en tout cas interrompues depuis 2012. Une semaine d'actualité, on va continuer à parler de votre magazine Alternative Internationale avec notamment cet article, Yann Mains, sur le tourisme équitable. En France notamment, hein, vous posez la question, à qui profite le deal ?
Oui, parce que le tourisme équitable, ça part, et le tourisme solidaire et le tourisme responsable, qui sont des catégories un peu différentes, ça part de cette idée, d'une part, que il faut que quand on est touriste, que les gens qui travaillent pour nous sur place, les gens dans les hôtels, dans les restaurants, etc., soient payés correctement. Ça me paraît plus que normal. Ensuite, il y a un autre palier qui est de savoir effectivement s'il faut aller à la rencontre des populations, éventuellement vivre avec elles, etc., qui est un autre palier, qui est plutôt le tourisme solidaire que le tourisme simplement équitable. La difficulté, c'est effectivement de mesurer qu'est-ce que c'est qu'une juste rémunération. Est-ce que, par exemple, si on fait monter la rémunération dans le secteur touristique dans un pays, on ne défavorise pas d'autres secteurs ? La question, c'est de savoir si, effectivement, quand on fait du tourisme solidaire, c'est-à-dire quand on va vivre avec les gens, c'est pas un peu du folklore si les gens font pas des activités pour vous faire plaisir et puis ensuite reprennent les activités derrière. Donc ça part d'une très bonne idée. Ce que nous constatons dans l'enquête que nous publions, c'est que globalement, pour l'instant, côté touriste, ça concerne plutôt des gens assez aisés parce que ça coûte un peu plus cher, le tourisme équitable, et c'est normal que ça coûte plus cher. Si les gens sont payés correctement, c'est normal. Mais du coup, ça ne concerne en France notamment qu'une catégorie assez aisée de la population. On pourrait dire que pour l'instant, c'est une niche, le tourisme équitable.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons maintenant en Afrique avec ces combats entre l'armée tchadienne et les combattants de Boko Haram. C'était mardi soir à Gambaru, en territoire nigérian. Notre correspondant au Tchad, Majasra Nako, a pu se rendre sur les positions tchadiennes.
La bataille de Wourgui a été une surprise pour les islamistes qui essayaient de se rapprocher des positions tchadiennes situées une dizaine de kilomètres plus loin. Ce sont des informateurs nigériens qui ont alerté les forces tchadiennes qui sont allées au-devant de l'ennemi. L'effet surprise a marché, provoquant la débandade dans les rangs des islamistes qui ont laissé sur le champ de bataille plus de 200 hommes. Mais l'armée tchadienne n'a pu aller plus loin. Elle a même dû se replier sur ses positions initiales à Gambaru, laissant le champ de bataille à l'ennemi qui est revenu de nuit. Colonel Azem Bermandoa, porte-parole de l'armée tchadienne.
Ils sont venus dans la nuit, ils ont récupéré les morts. Et vous avez vu aussi qu'ils étaient en train de récupérer leurs gens quand ils nous ont vus arriver. Ils ont fui. On a fait des prisonniers pour ramener. Ceux qui sont venus pour chercher à voir où sont leurs cadavres, c'est ceux-là qu'on a ramenés comme prisonniers.
Et c'est en revenant sur ses pas, deux jours plus tard, à Wourgui, que l'armée tchadienne a été prise sous le feu nourri des éléments de Boko Haram qui y sont revenus avant elle. À cause des restrictions nigériennes, les forces tchadiennes se contenteront de poursuivre l'ennemi sur quelques kilomètres avant de revenir sur leur base.
La lutte contre les islamistes, il faut que les Nations Unies soutiennent la force africaine contre Boko Haram. C'est ce qu'a répété Laurent Fabius lors de sa tournée de 48 heures au Tchad, justement au Cameroun et au Niger. Cette semaine, le ministre français des Affaires étrangères au micro de Christophe Boisbouvier.
Ce qui m'a frappé dans ma tournée, c'est la confirmation que Boko Haram représentait un danger énorme, à la fois par les exactions auxquelles il se livre, par l'importance des moyens dont il dispose, des moyens lourds. Donc, à partir de là, l'Union africaine et les pays africains concernés ont pris une décision qui est, eh bien, nous, Africains, nous allons rassembler nos forces pour combattre Boko Haram. C'est ce que nous avons toujours souhaité, puisque l'un des traits de la position française, c'est de dire, bien sûr, la France peut aider, mais elle ne peut pas se substituer aux Africains. Donc, il faut qu'il y ait toutes les onctions nécessaires. Donc, onction de l'Union africaine, deuxième stade, vraisemblablement en mars-avril, une résolution de l'ONU qui à la fois donnera une légitimité internationale incontestable et d'autre part fournira des moyens financiers. Mais il va falloir aussi accompagner cela d'une aide humanitaire et d'une aide au développement.
Enfin, pour clore ce triste chapitre, ce qui pourrait ressembler à une fable si l'actualité n'était pas aussi tragique, nous sommes dans le sud-est du Niger où les autorités ont interdit temporairement le transport de poissons dont le revenu irait financer les islamistes, nous raconte Nicolas Champeau. Boko Haram et le poisson fumé.
Les insurgés islamistes confisquent aux pêcheurs du lac Tchad leur cargaison de carpes et de silures. Une fois que les poissons d'eau douce ont été séchés et fumés, indiquait RFI une source sécuritaire à Difa, ces poissons, pêchés dans des zones du lac Tchad contrôlées par Boko Haram, sont ensuite revendus, selon notre source, à des commerçants véreux qui les écoulent sur les marchés du Nord Nigeria pour ensuite reverser des dividendes, des vivres ou du carburant aux insurgés côté Nigeria le long de la rivière Komadougou Yobé. Autoriser le transport du poisson fumé revient à financer Boko Haram, abonde une source au gouvernorat de Difa, qui a donc décidé d'une mesure d'interdiction mercredi dernier. Une mesure prise grâce au pouvoir conféré par l'état d'urgence dans la région de Difa. Cette interdiction, reconnaît notre source, entraînera sans doute des pertes de revenus pour des foyers du sud-est du Niger, mais c'est le prix à payer pour assécher Boko Haram. Fin de citation.
Boko Haram et le poisson fumé, ça pourrait presque prêter à sourire si c'était pas aussi tragique, encore une fois, mais c'est l'un des gros chapitres de votre enquête sur les djihadistes, Yann Mince, dans Alternative Internationale, dont la couverture est consacrée à la planète djihadiste. L'argent reste le nerf de la guerre, y compris pour les islamistes.
Oui, alors les djihadistes ont différentes tactiques de guerre, parce que ce sont d'abord et avant tout des mouvements guerriers. Je dirais que le terrorisme, c'est-à-dire faire sauter des bombes, ça coûte pas très cher. Avoir une guérilla, c'est-à-dire une petite armée, ça coûte déjà beaucoup plus cher. Et alors contrôler un territoire et le gérer comme l'État islamique, ça coûte encore beaucoup plus d'argent. Mais ça en rapporte aussi. Si on prend l'État islamique par exemple, aujourd'hui il est autonome financièrement. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'argent qui vient du Golfe. Alors il y a un peu d'argent qui vient du Golfe, d'argent privé. De donateurs privés qui soutiennent idéologiquement l'État islamique, pour des tas de raisons. Mais l'essentiel du financement d'un mouvement comme l'État islamique, c'est un financement endogène, propre. C'est le pétrole, c'est le racket, ce sont les taxes sur la population, etc. Dans le cas de Boko Haram, c'est le poisson fumé et d'autres sources. Dans le cas des Shabab somaliens, il semble que c'est effectivement aussi la contrebande de bêtes sauvages tuées, etc. Donc effectivement, une partie des mouvements djihadistes aujourd'hui, et singulièrement l'État islamique, sont des mouvements qui sont autonomes financièrement parce qu'ils ont mis la main sur des ressources comme le pétrole. Alors, l'État islamique est obligé de faire une décote sur son pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il l'exporte par des réseaux de contrebande. Effectivement, quand on l'exporte au réseau de contrebande, on peut pas l'avoir au prix du marché, le vendre au prix du marché. Donc ils le vendent moins cher, mais ils le vendent. Et là, il y a un vrai problème de traçabilité, c'est que c'est très compliqué, ce sont des petits réseaux, semble-t-il, beaucoup, et c'est très compliqué pour de les contrôler. On pourrait essayer d'assécher le financement de l'État islamique comme ça, mais ça supposerait que la Turquie, notamment, fasse un gros effort de contrôle de sa frontière.
Très riche enquête sur la planète djihadiste, avec cet encadré sur Boko Haram, justement, vous écrivez « L'ultra-violence est la marque de la secte ».
Oui, parce que Boko Haram s'est fait connaître, et notamment récemment, par des massacres très importants, en numériquement, je veux dire, qui sont clairement des massacres destinés à faire fléchir la détermination des pays voisins. Et c'est clair que ce sont des démonstrations de force, et ça consiste à dire au Niger, au Tchad, au Cameroun, si vous intervenez, nous massacrerons toujours plus. Cela dit, Boko Haram a aussi d'autres armes, on l'entendait dans le reportage de votre correspondant au Tchad, qui sont des offensives plus classiques, avec du matériel, semble-t-il, maintenant, peut-être pas lourd, mais enfin semi-lourd en tout cas, et certains observateurs soupçonnent qu'il y a là-dedans des combattants qui viennent d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire qui sont battus sur le front malien, qui maintenant effectivement est un front un peu plus dépeuplé pour eux, et qui du coup se sont rabattus, si je puis dire, sur le front nigérian, et qui ont amené avec eux leurs techniques militaires, qui sont des techniques militaires presque conventionnelles, des pick-up avec des armes dessus, des offensives, qui étaient des choses que Boko Haram faisait moins dans le passé.
Sept jours en Afrique.
Avec ces manifestations lundi contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie depuis le 31 décembre dernier, des manifestations ont lieu tous les jours dans le pays. Parmi les opposants au projet, Kamal Benkoussa, joint mardi par Stanislas Dachimier.
La question n'est pas de savoir est-ce qu'il faut ou il ne faut pas exploiter le gaz de schiste. Il aurait déjà fallu avoir un débat au niveau national, savoir quelles vont être les répercussions sur l'environnement, au niveau social, voir est-ce qu'il sera profitable d'exploiter le gaz de schiste. Si demain toutes ces garanties sont apportées pour une exploitation du gaz de schiste de façon contrôlée, bien entendu qu'il faudra en débattre et trouver une solution. Mais avoir une décision dans l'opacité la plus totale, tant que le gouvernement n'aura pas enlevé cette opacité et n'aura pas impliqué le peuple dans ce débat sur une question fondamentale, notamment pour le peuple du Sud, rien ne pourra avancer dans cette problématique. Je ne comprends pas aussi la position de ce gouvernement qui s'obstine à rentrer dans le gaz de schiste, d'autant plus que l'exploitation du gaz de schiste ne permet pas au gaz de schiste d'être rentable pour un pays. Un puits de gaz de schiste coûte 4 fois plus cher qu'un puits conventionnel. L'exploitation du gaz de schiste permet la rentabilité des fabricants de technologies.
Et on termine par l'Afrique du Sud, où Greenpeace exige des comptes au gouvernement sud-africain. L'organisation de défense de l'environnement veut savoir pourquoi son directeur a été surveillé par les services de renseignement. C'est la suite de l'affaire Spy Cables et la fuite de documents provenant de plusieurs agences de renseignement. Justement, des documents diffusés par la chaîne Al Jazeera, nous dit notre correspondante Alexandra Branjon à Johannesburg.
Le directeur de Greenpeace, Kumi Naidoo, se dit choqué. Selon un document des services de renseignement sud-africains publié par Al Jazeera, il aurait fait l'objet de surveillance. En 2010, la Corée du Sud aurait fait appel à Pretoria pour obtenir des renseignements sur Naidoo, qui est de nationalité sud-africaine. Séoul s'apprêtait à organiser le sommet du G20 et considérait le directeur de Greenpeace une menace sécuritaire potentielle. Celui-ci avait en effet appelé à se mobiliser contre le changement climatique en amont du sommet. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Johannesburg, Kumi Naidoo a indiqué ne pas être surpris par cette information, mais attristé.
Ce que j'aimerais entendre de la part de mon gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas collaboré avec les services de renseignement sud-coréens et qu'ils n'ont pas partagé ces informations.
De son côté, le gouvernement sud-africain a condamné la fuite de ces documents secrets, ajoutant que cela portait atteinte à la sécurité de l'État et à ses relations diplomatiques.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Et merci pour vos nombreux messages. Bonjour amical, notamment à Aboukari Oumar au Tchad, pour nous écrire, vous le savez, la page Facebook de l'émission, une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité. Suite et fin d'une semaine d'actualité avec Yann Mince, le rédacteur en chef d'Alternative Internationale. Des fuites, des leaks, comme disent les Anglais, Yann Mince. Le scandale ne concerne plus seulement les grandes puissances, il concerne aussi l'Afrique, en tout cas l'Afrique du Sud ici.
Alors c'est vrai que l'Afrique du Sud est parmi les pays africains probablement celui qui a des services de renseignement les plus développés, parce que c'est souvent quelque chose qui va de pair avec le niveau de développement économique d'un pays. C'est un pays qui a cependant des difficultés avec ses forces de sécurité en général, notamment la police sud-africaine. Il y a eu beaucoup de scandales de corruption. Donc là en l'occurrence, ce qui est inquiétant pour les services, mais inquiétant aussi au-delà, c'est que des services de renseignement dont les renseignements a priori confidentiel fuite, comme on dit maintenant, d'autres services leur font moins confiance. Or, dans la lutte contre le djihadisme notamment, c'est important que les services puissent échanger informations confidentielles les uns avec les autres. Si un service américain, français, a peur d'échanger avec un autre service parce qu'il est convaincu que ça risque de fuiter, ça risque de paralyser la lutte contre le terrorisme. Alors, évidemment, les services de renseignement, c'est une action clandestine, on se méfie toujours un peu ce qui est clandestin, mais très honnêtement, je pense que pour l'action des services de renseignement, qu'il y ait une part de clandestinité, une part de confidentialité, et il faut que ces gens-là puissent échanger. On a bien vu en Europe, après le 11 septembre, que c'est parce que les services européens ont mieux coopéré entre eux qu'ils ont pu empêcher un certain nombre d'attentats. C'est très important. Si l'Afrique du Sud, qui est un pays dans lequel il y a quand même une communauté potentielle de djihadistes aussi, est mise hors circuit de la coopération entre services, c'est un peu embêtant.
On reste sur le continent avec cette très belle image. Enfin, moi, qui m'a beaucoup ému dans votre magazine Alternatives Internationales, le retour du football après Ebola au Libéria.
Oui, parce qu'effectivement, RFI en a parlé dans une série de reportages de Sébastien Hémet, je crois. Au Libéria, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de cas d'Ebola nouveaux. Or, effectivement, pendant très longtemps, l'importance de la maladie d'Ebola, les risques de contamination faisaient que tout un tas d'activités collectives étaient interdites ou étaient limitées. Donc, on a aujourd'hui le retour des élèves dans les écoles, parce qu'on peut enfin s'asseoir les uns à côté des autres sur un banc. Et ce qui est vrai pour l'école est vrai aussi pour les stades. On peut enfin s'asseoir côte à côte sur les bancs d'un stade de foot pour pouvoir voir un match. Donc c'est la vie collective qui reprend, alors que tout le monde a été un peu terré. Alors ça veut dire aussi qu'on compte les victimes, ça veut dire aussi qu'on se regarde un peu en coin, parce qu'on se méfie quand même un peu encore de la contamination, et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malheureusement regardés avec beaucoup plus de méfiance que les autres, qui sont les orphelins, parce qu'effectivement eux, on sait qu'ils sont de familles qui ont été touchées.
Alors il faut lire Alternative Internationale, on va pas tout dire ce qu'il y a dans ce numéro, sinon on va plus y aller. Donc il y a beaucoup de choses à lire, et vous avez la page ouverte là sur le flamenco. Alors on apprend que le flamenco n'est plus espagnol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
En tout cas, le flamenco n'est plus seulement espagnol. C'est un article dont j'ai eu l'idée en lisant le journal El País, le quotidien El País, qui parlait de ça un jour, et m'est revenu que j'avais trouvé un jour un disque de musique de salsa, de musique latino-américaine, qui était faite par tout un tas d'orchestres du monde, mais pas des artistes latino-américains. Et effectivement, aujourd'hui, on a dans le flamenco des artistes japonais, lituaniens, israéliens ou hollandais, donc des gens qui sont vraiment pas de souche, si je puis dire, ibère ou espagnole, et sûrement pas de souche andalouse, et qui s'approprient cet art qui semble pourtant très très enraciné dans un terroir. On se dit ça, il faut l'avoir appris depuis tout petit, il faut avoir appris à danser, à chanter, etc. Il faut avoir ça presque dans les gènes. Presque dans les gènes, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des artistes...
Voilà. Ça derrière la vitre.
Absolument, les Finlandais ont une grande tradition de tango, je crois. Et ben, on voit aujourd'hui apparaître, sinon des traditions, en tout cas des artistes de flamenco, notamment au Japon. Et pourtant, Dieu sait que c'est très loin, et Dieu sait qu'on a l'impression que les Japonais sont des gens extrêmement réservés. Et bien, pourtant, il y a des artistes de flamenco au Japon. Il y a un vrai engouement chez un nombre de gens qui non seulement l'écoutent, mais le pratiquent. Et donc, ça veut dire qu'ils apprennent aussi l'espagnol, parce qu'il faut pouvoir chanter dans la langue espagnole. Il faut pouvoir s'approprier cette façon à la fois extrêmement passionnelle, extrêmement extravertie et aussi très contenue. C'est un mélange, le flamenco, c'est les deux choses à la fois.
Yann Mince, on vous connaissait passionné de jazz, on voit que vous aimiez aussi le flamenco, en tout cas le flamenco japonais.
Pas seulement japonais, aussi le flamenco lituanien dont j'ai découvert l'existence.
Voilà, c'est la fin d'une semaine d'actualité. Merci beaucoup Yann Mince. À lire absolument cette revue Alternative Internationale numéro 66 qui arrive en mars. La couverture est consacrée à la planète djihadiste. À lire, on apprend beaucoup, beaucoup de choses encore une fois. Excellent cru. Au micro, donc, Stéphane Lagarde, derrière la vitre du studio, Vanessa Rovansky vient d'en parler à la réalisation de cette émission. Pour ma part, je redonne les clés du studio à Pierre-Edouard Deldic qui revient dès demain dimanche, frais et dispo, hein, il revient de vacances, Pierre-Edouard. On reparlera des djihadistes avec Pierre-Jean Luisard, auteur du Piège d'Esch, publié aux éditions La Découverte. Il sera l'invité de l'émission Idée à 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end à tous.